Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 30 mai 2024, en direct de Washington, Rosine Monezero. Pour commencer, les titres. Le ministre béninois des Mines s'est rendu à Niamey lundi et mardi pour une visite de travail. Des centaines de personnes ont perdu leur travail en Guinée après l'interdiction de certains médias par les militaires au pouvoir. En Afrique du Sud, la population était appelée aux urnes hier. La participation s'annonce forte pour ces législatives les plus disputées depuis 30 ans. Dans notre parti magazine, les combats entre les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo s'intensifient dans le territoire de Masisi, au nord Kivu.
On a compris que c'est une façon de nous frustrer pour abandonner la zone et que l'ennemi arrive à assiéger ou s'accaparer.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le ministre béninois des Mines s'est rendu à Niamey lundi et mardi pour une visite de travail afin de trouver une porte de sortie sur l'exportation du pétrole nigérien via le littoral béninois. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Samou Seydou Andabi était aussi porteur d'un message du président Patrice Talon au général Abdourahmane Tiani à la tête du Niger depuis son coup d'état en juillet dernier. Ce dernier n'a pas voulu le recevoir, a déclaré le ministre béninois des Mines lors d'un point de presse à Cotonou. Le Niger a inauguré en novembre un oléoduc géant qui doit permettre l'acheminement jusqu'au Bénin du pétrole brut extrait du gisement d'Agadem par la China National Petroleum Corporation, mais le premier chargement de pétrole nigérien au port de Semekpoji n'a eu lieu que le 19 mai, suspendu d'abord à cause de la fermeture des frontières entre le Niger et ses voisins, après les sanctions imposées par la CEDEAO. Le refus du Niger de rouvrir sa frontière avec le Bénin malgré la fin des sanctions en février a ensuite empêché que le pétrole ne transite par le Bénin. Il a fallu la médiation de la société chinoise WAPCO, partenaire du Bénin et du Niger pour la gestion de l'oléoduc, pour convaincre les deux parties de lancer le premier chargement. Mais le président Patrice Talon a laissé entendre mi-mai que les chargements suivants ne se feraient pas tant que le Niger ne rouvrirait pas complètement sa frontière avec le Bénin, ce qui n'est toujours pas le cas. À l'issue des deux jours de réunion, aucune solution ne semble avoir émergé.
Le lieutenant-colonel burkinabé Emmanuel Zongrana, poursuivi pour des faits présumés de tentative de déstabilisation et remis en liberté provisoire mardi, a été enlevé mercredi à temps appris auprès de son entourage. Monsieur Zongrana, 42 ans, avait été interpellé une première fois et incarcéré, notamment pour une tentative de déstabilisation des institutions de l'État le 14 janvier 2022, alors que le Burkina était encore gouverné par le régime civil de Roch Marc Christian Kabore. Il avait été interpellé de nouveau quelques jours après, cette fois pour une nouvelle tentative de déstabilisation des institutions de l'État contre le régime du capitaine Traoré. Des centaines de personnes ont perdu leur travail en Guinée après l'interdiction de 4 radios et 2 télévisions par les militaires au pouvoir, a indiqué le principal syndicat de la presse qui prépare une grève générale. Le point avec Eric Manilakid.
Nous nous retrouvons avec plus de 700 emplois qui ont été subitement perdus dans le secteur des médias, dit le syndicat des professionnels de la presse de Guinée. L'interdiction des médias cause un désastre social et humanitaire, dit-il. Les autorités ont retiré le 22 mai leur agrément à 4 radios et 2 télévisions parmi les principaux médias privés de Guinée. Elles ont justifié cette mesure par des dérapages réguliers et une violation de la dignité de la personne humaine. Le syndicat qualifie de liberticide l'attitude de la junte. Le premier ministre nommé par les militaires en février, Amadou Ouryba, s'est livré à une nouvelle charge contre la presse lundi à l'occasion de sa déclaration de politique générale. Le syndicat des professionnels de la presse de Guinée a dit la semaine passée son intention de déclencher une grève illimitée. Il demande le soutien de tous les syndicats dans une lettre adressée à la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, principale force syndicale du pays.
L'UNICEF s'est ému mercredi d'une augmentation alarmante de 70% des violences graves contre les enfants au Burkina Faso, au Mali et au Niger, pays sahéliens en proie au djihadisme et aux abus d'une multitude d'acteurs armés. Au cours des trois derniers mois de 2023, le nombre de violations graves commises à l'encontre des enfants au Sahel central a augmenté de plus de 70% par rapport aux trois mois précédents, déclare dans un communiqué Gilles Faninou, directeur de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La plupart de ces violations consiste dans le recrutement forcé des enfants dans les groupes armés, l'exploitation à laquelle ils sont soumis, le meurtre et les mutilations, dit-il. Les Nations Unies ont exprimé leur inquiétude sur le sort d'un millier de réfugiés soudanais qui ont fui d'égumer le camp d'Al-Walala en Amhara, une région troublée du nord de l'Éthiopie après une série d'attaques. La sécurité sur le terrain reste un défi profond pour nos équipes et pour les travailleurs humanitaires, indique le HCR. L'ONG américaine Medical Teams International a confirmé cette semaine le décès d'un de ses employés lorsqu'un convoi a été attaqué par des hommes armés. En Afrique du Sud, 27,6 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes hier. De longues files d'attente se sont formées devant les bureaux de vote jusqu'à leur fermeture à 21h. La participation s'annonce forte pour ces législatives les plus disputées depuis 30 ans, alors que l'ANC, au pouvoir, risque de perdre sa majorité historique. Nathalie Barge.
Les Sud-Africains devaient choisir parmi une cinquantaine de listes pour élire 400 députés à la proportionnelle. La nouvelle Assemblée nationale désignera le président en juin. De nombreux électeurs ont patienté parfois plusieurs heures pour pouvoir voter, surtout dans les grandes villes. Selon la commission électorale, qui s'attend à une participation supérieure à celle de 66% des législatives de 2019. À Soweto, le président Cyril Ramaphosa a estimé que la victoire de l'ANC ne fait aucun doute, tandis que le principal opposant, John Steenhuisen, a évoqué l'ouverture d'une nouvelle ère. Selon les sondages, l'ANC au pouvoir pourrait obtenir moins de la moitié des voix en raison d'une insatisfaction croissante de la population. L'Alliance démocratique pourrait recueillir 25% des voix. Les radicaux de gauche, des combattants pour la liberté économique, sont crédités d'environ 10%. Leur leader, Julius Malema, a fustigé la longue attente au bureau de vote après avoir déposé son bulletin à Polokwane. L'ANC est également menacée par le parti de l'ancien président Jacob Zuma, crédité de 14% des suffrages. Mais face à une opposition dispersée, il devrait toutefois demeurer le premier parti au Parlement, où il détient actuellement 230 sièges sur 400. Les résultats définitifs sont attendus ce week-end.
Quelques 173 Béninois candidats à l'immigration en Europe et bloqués en Tunisie ont volontairement été rapatriés mardi à Cotonou, la capitale économique du Bénin, a annoncé mercredi l'Organisation internationale pour l'immigration, OIM. Depuis un discours aux accents xénophobes du président tunisien Kais Saied en février 2023, des milliers de ressortissants d'Afrique subsaharienne séjournant illégalement en Tunisie ont perdu leur logement et leur travail le plus souvent informel. Depuis le 1er janvier jusqu'au 27 mai 2024 inclus, l'OIM a facilité le retour volontaire et la réintégration de 3251 migrants depuis la Tunisie vers leur pays d'origine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Madagascar a tenu mercredi des législatives pour élire 163 députés. Le président Andry Rajoelina, dont la réélection en novembre à un second mandat a été contestée par l'opposition mise sur une large majorité à l'Assemblée. Le point avec Dili Diko.
Les dépouillements ont commencé à 17h locales, à la lueur de torches et de bougies, dans plusieurs bureaux de la capitale, Antananarive, plongés dans l'obscurité en raison d'une panne d'électricité. Environ 11,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour renouveler entièrement l'Assemblée nationale. Les résultats doivent être annoncés courant juin. Distribuant promesses d'infrastructures, kits scolaires et sacs de riz, M. Rajoel a sillonné le pays en amont du scrutin, 6 mois après la présidentielle. L'Assemblée nationale est le palais de la démocratie, c'est là qu'on peut s'exprimer et débattre. La démocratie y règne, a assuré le chef d'État après avoir voté. Mercredi, plusieurs opposants et candidats indépendants ont dénoncé des irrégularités aux législatives. Une plateforme d'opposition rassemblant deux anciens présidents a appelé les électeurs à suivre le dépouillement pour protéger leur choix.
Le président chinois Xi Jinping a appelé jeudi à l'organisation d'une grande conférence de paix pour résoudre le conflit à Gaza à l'ouverture d'un forum réunissant dirigeants et diplomates arabes à Pékin. Rappelant la nécessité, selon lui, d'une solution à deux États, Xi Jinping a souligné que la Chine soutenait fermement la création d'un État palestinien indépendant. À présent, la Minute Éco avec Nanit Talani.
Le ministre béninois des Mines s'est rendu à Niamey pour une visite de travail de deux jours afin de trouver une porte de sortie sur l'exportation du pétrole nigérien via le littoral béninois, compromise par la brouille diplomatique entre les deux États. Le Niger a inauguré en novembre un oléoduc géant qui doit permettre l'acheminement jusqu'au Bénin du pétrole brut extrait du gisement d'Agadem dans le sud-est par une société pétrolière chinoise. La Guinée-Bissau a lancé une plateforme utilisant la technologie blockchain pour gérer les salaires de ses fonctionnaires et renforcer la transparence, a indiqué le FMI mardi. La technologie de la blockchain permet de construire et partager un immense registre informatique. Réputé infalsifiable, ce registre garde la trace de toutes les opérations survenues depuis son lancement. Pour terminer, le Nigeria a rouvert ce mercredi la première phase d'un réseau ferroviaire qui relie l'aéroport international à d'autres quartiers de la capitale Abuja, 4 ans après sa suspension en raison du Covid-19. Les trajets sont gratuits jusqu'à la fin de l'année. Construit pour 823 millions de dollars, le réseau ferroviaire comprend 45,25 km de voies sur deux lignes. Une fois achevé, il comptera 6 lignes et 292 km de voies.
Place maintenant au sport avec Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour Rosine, bonjour à tous.
L'affiche de la finale de la Basketball Africa League saison 4 est connue.
Oui, le verdict des demi-finales est tombé hier à la Biké Arena de Kigali. Les Libyens d'Al Ahly feront face aux Angolais de Petro de Luanda en finale. En demi-finale hier, les Libyens d'Al Ahly qui découvrent pourtant cette compétition ont battu les Rivers Hoopers du Nigeria 89-83 après prolongation. Dans la seconde demi-finale, les Cape Town Tigers d'Afrique du Sud se sont également inclinés 96-86 devant les Angolais de Petro de Luanda, là aussi après prolongation. Libyens et Angolais vont s'affronter ce samedi 1er juillet pour la succession d'Al Ahly d'Égypte, le champion en titre sorti en quart de finale.
Football, quelle issue possible dans la crise entre la FECA Foot et le ministère des Sports au Cameroun?
C'est la question que tout le monde se pose. Un encadrement intérimaire conduit par Martin Tungum Pile a été désigné mardi soir par le président de la Fédération Camerounaise de Football. La décision a été prise au terme d'un comité d'urgence de la FECA Foot après le clash d'hier entre Samuel Tofis et le sélectionneur belge des Lions Indomptables, Marc Brice, désigné par le ministère des Sports. Trois issues possibles dans cette crise, selon Moussa Ndjoya, analyste camerounais joint à Yaoundé.
La première issue est que le gouvernement laisse finalement faire M. Eto'o, que ce soit son staff qui dirige l'équipe nationale Fanion des Lions Indomptables. Et là, c'est l'autorité de l'État qui va forcément en pâtir, et surtout la pratique des 13 autres instructions, personne ne croira plus. Lorsque le secrétaire général de la présidence de la République transmettra des hautes instructions du président de la République, l'autre possibilité dans cette alternative-là, c'est que l'État refuse de décider en refusant de financer désormais et la fédération dont l'essentiel des revenus sont tirés des subventions de l'État, ou bien de payer le personnel technique et le staff technique de la fédération. Ou bien l'État peut décider d'imposer coûte que vaille son staff, et là, la FIFA peut intervenir, le Cameroun peut être suspendu, on peut même ne même pas jouer le prochain match, c'est toujours possible. L'autre troisième possibilité, c'est que à l'issue de toute cette situation, on laisse M. Eto'o faire, la double confrontation passe, et après l'État du Cameroun décide tout simplement de retirer son agrément à la Fédération Camerounaise de Football.
Moussa Ndjoya, analyste camerounais depuis Yaoundé.
Le Bayern Munich mise sur le Belge Vincent Kompany.
Le Belge de 38 ans a été nommé entraîneur du Bayern Munich avec un contrat de 3 saisons jusqu'à l'été 2027, prenant ainsi la succession de Thomas Tuchel, entraîneur depuis l'été 2019, d'abord à Anderlecht puis à Burnley. Vincent Kompany se voit confié
confié la mission de reconquérir le titre de champion d'Allemagne, cédé par le Bayern. L'ancien défenseur international belge a surtout passé 11 saisons sous les couleurs du Manchester City de 2008 à 2019.
Merci Yacouba.
Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Rosine Munezero de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les combats entre les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo s'intensifient dans le territoire de Masisi, au nord Kivu, et se rapprochent de la province voisine du sud Kivu. La cité de Minova, à la frontière entre les deux provinces, a été la cible des rebelles ces deux dernières semaines, et les tirs d'obus tirés depuis les lignes de front ont déjà fait des victimes civiles. Zanem Neti Zaidi, notre correspondant dans la région, nous en parle.
Située à 50 km de la ville de Goma, Minova est une cité de la province du Sud Kivu qui a déjà subi d'énormes dégâts suite à la guerre dans les territoires voisins de Masisi. Des dizaines de bombes qui seraient tirées par les rebelles du M23, selon le gouvernement congolais, ont déjà explosé dans cette zone et 6 personnes ont déjà perdu la vie, selon les autorités locales. Cette maison, déjà abandonnée, est l'image qui illustre les effets des bombardements déjà enregistrés. Les habitants disent vivre dans la peur.
Il y a quelques jours, une bombe a explosé ici. Elle a tué une femme qui préparait du sombé et blessé des enfants et un jeune garçon. La bombe a été tirée par les rebelles du M23. Aujourd'hui, nous vivons dans une insécurité totale. Le gouvernement devrait faire de son mieux pour mettre fin à tout cela, car nous souffrons énormément.
Cette avancée des rebelles du M23 dans la province du Sud Kivu inquiète les autorités locales de Minova, qui dénoncent la stratégie des rebelles consistant, selon elles, à forcer l'armée congolaise à abandonner la cité en ciblant les civils par des bombardements aveugles. Justin Kamanda, secrétaire administratif du groupement des Bouzi, on est convaincu.
Les bombes larguées, on a compris que c'est une façon de nous frustrer pour abandonner la zone et que l'ennemi arrive à assiéger ou s'accaparer. Et puis, quand on fuit la zone, l'ennemi récupère. C'est pourquoi nous sommes rangés toujours derrière notre armée pour la réconforter.
Tous les blessés et les civils victimes des bombardements sont traités à l'hôpital général de Minova. Selon le médecin, l'hôpital rencontre actuellement des difficultés pour s'approvisionner en médicaments en raison de la fermeture des routes due à la guerre. La seule voie d'approvisionnement est celle du lac Kivu, mais les dangers du transport par cette voie sont difficiles, reconnaît le docteur Lavi Kasidika, directeur médical de l'hôpital.
Des fois, on tombe à retirer un médicament. C'est tout comme c'est un grand travail, il y a beaucoup de blessés qui arrivent. Les peu de médicaments qui arrivent, ils sont consommés, ils sont finis. Mais quand même, nous faisons les meilleurs de nous-mêmes.
De nombreuses autres structures sanitaires de Minova risquent une rupture dans l'approvisionnement en médicaments, en plus de la crise humanitaire qui s'installe progressivement dans cette région, autrefois considérée comme le grenier des villes de Goma et Bukavu. Zanem Neti Zaidi revient de Minova pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
Dans l'est de la République du Congo, les populations déplacées sont de plus en plus en insécurité dans les sites où elles sont placées à cause des combats qui s'y rapprochent, surtout à Goma, capitale de la province du Nord Kivu. Médecins sans frontières lance un appel au respect des droits de ces victimes car nombreuses sont blessées par des attaques et des obus et la plupart sont contraintes de se déplacer à répétition. Eddie Isango a joint à Goma la chef de mission de Médecins sans frontières Hollande en RDC, Natalia Torres.
Ce qu'on a constaté, surtout dans les derniers mois, c'est qu'on voit un recrudescement de les conflits armés. Et surtout, ces conflits s'étaient accrochés dans les grandes villes, à la grande ville de Nord Kivu, surtout à Goma. Et à Goma, c'est un endroit où il y avait déjà beaucoup de réfugiés depuis 2023, ils sont arrivés en ville, surtout pour trouver deux endroits sûrs. Maintenant, ce qu'on a vu, c'est depuis début février, que ces combats, ils sont arrivés proches de la ville. On a constaté plus de population en arrivant à Goma, mais aussi on voit que la ligne de front, c'est assez proche et ça nous inquiète parce que avec ces grandes populations, ces civils qui sont proches en ligne de front, on constate que la situation et le respect à l'étroit humanitaire international, ce n'est pas toujours assuré.
En clair, qu'est-ce que vous voulez dire? Que les camps des déplacés sont attaqués et il y a par conséquent beaucoup de blessés parmi les déplacés?
Les lignes de front ne sont pas loin de la population civile. Parfois, la population civile s'est prise dans les combats. On a vu depuis février une augmentation du nombre de blessés qui arrivent dans les structures sanitaires de MSF, victimes de violences, victimes de abus, victimes des armes de guerre. Ça, c'est qu'on constate. Parce que c'est clair, on voit que les théâtres d'opérations militaires sont proches à les sites de civils. Ça nous inquiète parce que parfois et par ailleurs, il y a des bombes aussi qui tombent dans de villes, mais aussi proches à des camps. Et même, on a constaté aussi qu'il y a des bombes qui sont tombées dans les camps de déplacés.
Avec cette situation, combien difficile est votre tâche? Qu'est-ce que vous éprouvez comme difficulté pour aider ces déplacés?
Proche à Goma, c'est presque 1 million de populations déplacées qui sont dans les alentours de Goma. Alors, ce qu'on voit et ce qu'on constate, c'est que les besoins sont assez grands. Les besoins en nourriture, les besoins en abri, les besoins en services, en infrastructure de l'eau et l'assainissement sont grands. Les besoins aussi d'accès à santé sont grands. Alors, MSF, on a déployé pas mal d'équipes sur cette camp pour assurer et pour couvrir quelques besoins de la population, mais aussi la situation proche des camps, c'est pas toujours sécure. Ça nous met en de complexes décisions d'arrêter les activités, surtout pour assurer que les équipes vont bien, et surtout pour empêcher que c'est nous qui attirons beaucoup de population dans les services et on met en risque aussi cette population.
Et comme les combats se déplacent un peu plus au nord et plus au sud, vers le sud, quelles en sont les conséquences?
Ce qu'on voit, c'est que la population, de population qui se déplace et se redéplace en aggravant leur situation de vulnérabilité. Tous les nouveaux arrivés à Goma, mais aussi les sous-kivus, ce n'est pas épargné.
Natalia Torrent, chef de mission de Médecins sans frontières Hollande en RDC.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
La région du Sahel est devenue le nouvel épicentre du terrorisme mondial, incitant les pays du monde entier à intensifier leurs efforts pour contrer la violence par le biais d'entraînements militaires tels que les exercices Flintlock 2024 au Ghana et en Côte d'Ivoire. Les analystes estiment cependant que remédier aux défiances économiques de la région constituerait un moyen de dissuasion plus efficace. Reportage de Sénan Noutor à Tamale au Ghana. Récit Nathalie Barge.
À l'aéroport international de Tamale au Ghana, les troupes s'entraînent dans une simulation de fusillade. Cet exercice fait partie du partenariat de sécurité entre les États-Unis et l'Afrique, visant à renforcer les efforts de lutte contre le terrorisme dans la région. Le major général Todd Westmund, commandant de la force opérationnelle d'Europe du Sud des forces américaines en Afrique.
L'objectif le plus important de ces exercices est de renforcer les capacités de partenaires. Nous nous concentrons sur des choses comme préparer le terrain, développer l'interopérabilité et les aider à développer les capacités nécessaires pour atteindre leurs objectifs de sécurité en Afrique.
Organisé par le département américain de la défense, l'opération Flintlock 2024 travaille avec des experts de la sécurité d'Europe, d'Asie et d'une trentaine de pays partenaires au Ghana et en Côte d'Ivoire. Pendant 2 semaines, ils participent à des simulations de combat et partagent des renseignements sur la lutte contre le terrorisme. Nana Abena Darkoa Dapa, major dans l'armée ghanéenne.
Nous constatons que les activités des éléments terroristes et armés progressent et nous devons trouver les voies et moyens pour y répondre.
Des analystes de la sécurité affirment cependant que la focalisation sur les réponses militaires au terrorisme au Sahel a échoué. Selon l'indice mondial du terrorisme 2024, publié par l'Institut pour l'économie et la paix, l'Afrique subsaharienne est devenue l'épicentre mondial du terrorisme avec plus de 50% des décès dus à l'extrémisme violent. Moutarou Moumouni Mouktar, directeur exécutif du Centre africain de lutte contre l'extrémisme, critique l'approche militariste.
Cela a suscité de nombreuses doléances au sein de la population locale. Elle a ignoré les réalités des vulnérabilités ou les moteurs de l'extrémisme violent, les questions de sécurité humaine, de création d'emplois, la lutte contre la vulnérabilité et la marginalisation des jeunes.
Mouktar affirme que les jeunes vulnérables sont facilement radicalisés.
Les jeunes moyens pensent que les engagements du FMI avec l'Afrique sont construits autour des conditionnalités qui les empêchent de stimuler une croissance économique qui puisse permettre à l'État de recruter ou de créer des emplois pour les jeunes, et ils blâment donc l'Occident.
Ce sentiment se reflète dans des appels croissants lancés aux pays africains pour les inciter à rompre leurs relations avec leurs partenaires étrangers. Les États-Unis ont annoncé en avril qu'ils vont retirer leurs troupes du Niger et du Tchad. Virginia Palmer, ambassadrice des États-Unis au Ghana.
Les États-Unis discutent toujours de la manière dont les relations de sécurité avec le Niger, par exemple, seront gérées. Et nous tous, y compris le Ghana et d'autres pays de la CDAO, sommes préoccupés par un recul démocratique.
Certains experts affirment que si les relations tendues et les déficiences économiques dans la région du Sahel ne sont pas résolues, l'approche militaire à elle seule ne parviendra pas à mettre un terme à l'extrémisme violent.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Les candidats à l'élection présidentielle américaine de novembre, le président sortant Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump, font tous deux campagne pour obtenir le soutien des électeurs noirs. Scott Stearns, correspondant de la VOA, examine comment les campagnes présidentielles ciblent les Africains-Américains. Récit Eric Manilakiza.
Donald Trump a déclaré aux électeurs de New York que tous les Américains bénéficieront de son élection.
It doesn't matter whether you're black.
Peu importe que vous soyez noir, brun, blanc, ou peu importe votre couleur, cela n'a pas d'importance. Nous sommes tous des Américains et nous allons nous unir en tant qu'Américains.
Joe Biden, lui, a déclaré aux défenseurs des droits civiques dans le Michigan que tous les Américains sont représentés dans son cabinet.
Nous avons plus d'Africains américains, nous avons plus de femmes, nous avons plus de minorités dans notre administration que toute autre administration de toute l'histoire. C'est pourquoi nous réussissons si bien.
Trump et Biden font tous deux campagne pour obtenir le soutien des électeurs noirs dans une élection où cela pourrait faire la différence dans les États clés qui pourraient décider de l'issue du scrutin. Les données du Pew Research Center montraient que les préoccupations majeures pour les Africains-Américains en 2024 sont l'amélioration de l'éducation et le renforcement de l'économie. Trump dit qu'il s'attaquera à ces deux éléments. La campagne de Biden cible les électeurs noirs avec cette publicité sur Trump à New York. Le manque de respect de Donald Trump envers les Noirs n'est pas nouveau. Il a été poursuivi pour avoir refusé de louer ses appartements à des familles noires et a appelé à l'exécution de 5 adolescents noirs et bruns innocents. Biden dit que Trump est un candidat vengeur dont l'élection nuirait aux minorités.
Trump ne se présente pas pour diriger l'Amérique, il se présente pour se venger, pour se venger. Ce n'est pas une façon de diriger le pays. On ne peut pas construire un avenir sur la vengeance. On ne peut pas construire de meilleure vie par la vengeance. C'est pourquoi je me présente pour conduire l'Amérique vers l'avenir.
L'immigration est un thème central de la campagne de Trump. Un thème qu'il a adapté aux électeurs minoritaires du South Bronx.
Les Africains-Américains se font massacrer. Les Hispano-Américains se font massacrer. Et ces millions et millions de personnes qui entrent dans notre pays, l'impact le plus important et le plus négatif est contre notre population noire et notre population hispanique qui perdent leur emploi, perdent leur logement, perdent tout ce qu'ils peuvent perdre.
Biden a dit aux électeurs noirs qu'il avait encore besoin d'eux pour battre Trump.
Vous êtes la raison pour laquelle Donald Trump est l'ancien président vaincu et vous êtes la raison pour laquelle Donald Trump sera à nouveau un perdant.
Il y a 4 ans, les électeurs noirs ont choisi Biden plutôt que Trump à 92%. Depuis le mois dernier, les données du centre Pew Research indiquent que ce chiffre est passé à 77% des électeurs noirs qui voteraient ou penchent pour Biden contre 18% pour Trump.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, vous étiez avec Rosine Munezero, à la mise en onde, Firmin Koyaweda. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.